Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes à nouveau sur la radio des Rencontres Européennes du Social. Donc j'imagine que vous nous écoutez à Buenos Aires, à Montevideo, à Yaoundé ou encore à Bruxelles. Donc nous vous souhaitons la bienvenue pour cette deuxième émission de la journée. Donc cette émission est un dialogue entre deux tables rondes. Donc la première, dont le titre est « Les solidarités internationales pour faire société », et la seconde qui traitait de « Quel regard sur les personnes ?». Donc pour nous accompagner dans cette réflexion et dialoguer, nous avons Geoffroy Carly, des CMEA de Belgique, et Alex Veil, des CMEA France. Donc bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Donc nous vous remercions de participer à cette émission. L'objectif de ce temps est de dialoguer entre vous sur les points de convergence, ce qui s'est dit dans vos ateliers, dans vos tables rondes, et d'élaborer ensemble un peu ces points de convergence que nous souhaitons faire émerger à la fin des rencontres européennes du social. Donc je vais me retourner vers toi, Geoffroy. Est-ce que tu pourrais me dire un peu, nous restituer les éléments un peu saillants, clés de la table ronde que tu animais ce matin?
Donc on a travaillé sur les regards qui étaient portés au départ sur les personnes qui sont, dans une certaine mesure, bénéficiaires du travail social qui peut être fait. Et d'emblée, il y avait une question qui se posait, qui était de savoir... Le regard, il est réciproque en réalité. Donc on peut parler de regard que les travailleurs sociaux posent sur les bénéficiaires, les usagers, les utilisateurs, on peut trouver plein de mots pour les nommer, mais aussi de se dire comment est-ce qu'eux, on leur permet d'avoir un regard sur ce qui se passe pour eux et comment est-ce qu'ils ont un regard sur les professionnels qui les entourent, les dispositifs qui leur sont proposés. Et donc... D'entrée, quelque part, la question qui se posait, c'était de nous instituer dans une forme de réciprocité entre un mandat social qui est confié à des travailleurs ou à des travailleuses sociaux-sociales et des publics dont il s'agit au final de réhumaniser leur place, c'est-à-dire de leur redonner une place qui n'est pas seulement celle qui leur est assignée par un dispositif social, mais qui est une place beaucoup plus globale que cette assignation. Et déjà rien que là, même dans la manière dont la question est formulée, peut nous interroger sur comment est-ce qu'on institue de la réciprocité ou comment au départ on considère l'autre dans une fonction, un rôle, une position avant même de l'envisager comme personne. Et donc je pense que c'est une des premières dimensions que révélait cette table ronde.
En somme toute, c'est aussi la question de la place de chacun et chacune dans nos sociétés.
Oui, la place de chacun et chacune, mais place assignée ou place choisie. Et une des manières d'en sortir dans ce qui était proposé en table ronde, c'était de dire il faut permettre aux gens d'agir, d'être dans le concret, dans la réalité. Avec un débat qui s'est tenu autour de la question du bénévolat en anglais. Donc il y avait des personnes qui parlaient en anglais volontariat et une controverse qui s'est initiée dans le débat sur la distinction entre volontariat et bénévolat. Le volontariat étant plutôt de l'ordre d'une forme
d'engagement.
Plutôt de processus. Et le bénévolat étant plutôt dans son acception latine initiale, mais moi je ne connais pas le latin, donc je répète ce qui a été dit ce matin, plutôt dans le volontariat, le bénévolat c'est plutôt faire le bien, la volonté de faire le bien. Et donc une dimension plus engagée, la dimension de volontariat étant peut-être plus processuelle au final. Et donc des interrogations qui se posaient par rapport à ça, en se disant, si on met les gens dans du bénévolat, est-ce qu'on n'est pas en train de les instrumentaliser dans une certaine mesure, de leur faire vivre ou de les faire agir quelque chose mais qui ne leur donne pas nécessairement de statut valorisable auprès de l'extérieur, qui ne leur donne pas nécessairement un revenu qui est probablement une vraie question. Comment est-ce que cet investissement-là peut être valorisé? Mais en parallèle, de dire aussi... il ne s'agit pas nécessairement d'être dans la valorisation d'un statut, il s'agit essentiellement là d'être dans une action qui fait se rencontrer les gens, qui force les gens à être dans d'autres places ou dans d'autres postures que celles dans lesquelles ils sont habituellement. Et donc le fait de passer par un agir, même s'il est bénévole, même s'il est sans question statutaire, d'existence statutaire, il est dans le fait de valoriser des compétences qu'on peut avoir dans une action concrète. Et ça, c'était quelque chose qui était assez valorisé et qui venait quelque part contrecarrer cette histoire d'instrumentalisation des bénévoles en se disant c'est un espace de liberté qui persiste, le bénévolat, en réalité, qui n'est pas contraint par l'État, qui n'est pas dans la dépendance de l'État, qui est une action volontaire des personnes et qui leur permet de mettre en avant des compétences qu'elles auraient, des compétences qu'elles vont acquérir, et qui leur permet d'agir très concrètement dans l'environnement dans lequel elles se trouvent.
Donc l'agir, on pourrait résumer en disant c'est un peu l'agir comme moyen de sortir des assignations ?
Oui, il y avait ça. Avant de se poser la question du pourquoi on est dans cette situation-là, pourquoi on est démunis, précarisés. Enfin, donc dans les intervenants de ce matin, il y avait quelqu'un du Secours Populaire. Donc elle disait, quand on franchit la porte du Secours Populaire, c'est quelque part qu'on en est loin. À un moment donné, on fait appel à l'aide puisqu'on franchit la porte du Secours Populaire. Mmh. Et de dire, vous en êtes loin, vous venez franchir la porte, et donc nous, on va proposer une action concrète. On ne va pas vous demander pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous est arrivé, et c'est de comprendre le pourquoi du comment et ça, c'est moi qui ajoute, mais de revenir à la profonde petite enfance et aux frustrations de l'enfant face au sein maternel. Hein, on est loin de là. On est dans, vous venez ici, vous êtes en difficulté. On va proposer une action concrète qui va vous permettre de valoriser des compétences que vous avez, finalement, quelles qu'elles soient. Et on s'en fout un petit peu. Hein. Enfin, vous savez faire. L'exemple allemand, c'était. Vous savez faire du jardinage, vous allez faire du jardinage. Vous savez faire de la cuisine, vous allez faire de la cuisine. Vous avez envie de faire du bricolage et vous êtes en capacité de faire un repair café, on va faire un repair café. Et c'était, donc, c'était pas. Peu importe les compétences que vous amenez, on va en faire quelque chose et on va vous permettre de les exercer. Et les exercer probablement face à d'autres. Et donc, vous réinstituer en tant que personne qui a de la valeur, qui a des compétences, qui a de la potentialité face à d'autres. Et donc ça, c'était dans des espaces, j'allais dire, semi-publics. Donc les gens peuvent le fréquenter, mais ce n'est pas visible aux yeux de tous. Mais après, dans des créations culturelles ou dans des expressions culturelles, ça peut être aussi visible face à la communauté, face à l'extérieur, sur la place publique.
Donc c'est un peu l'idée aussi que l'institution est aussi un moyen de reconnaissance.
L'institution, elle pose un cadre. Et dans ce qui se traversait ce matin aussi dans notre table ronde, c'était le fait de poser face à des publics qui sont en précarité, en difficulté, en désaffiliés, grosso modo, les pauvres et les dominés, hein, si on résume, de dire on va être face à vous, mais avec une exigence. C'est-à-dire, vous venez dans un cadre, le cadre il vous propose une forme de réciprocité. Vous êtes en demande, vous êtes en difficulté, et on peut se dire on va vous aider, néanmoins en retour on va vous demander vous aussi de contribuer à quelque chose et d'être acteur de quelque chose. Et donc je pense qu'il y avait quelque chose d'assez important dans ce qui était dit, de dire le fait d'être exigeant vis-à-vis des personnes qui viennent, c'est de les réinstituer dans leur humanité en tant qu'être capable, et pas juste comme on pourrait penser à des moments face à des publics qui sont en difficulté. On va pas leur en rajouter une couche, on va pas leur en demander plus, ils ont déjà tellement de misère sur eux ou sur elles qu'on va pas demander autre chose. Ceci dit, ici c'est pas ça, on n'est pas en train de les considérer au travers de leurs difficultés, on est en train de les considérer au travers de leur humanité, et de dire en tant qu'humain, je te considère comme étant capable de faire des choses, et donc vis-à-vis de toi j'ai des exigences, et ça probablement que l'institution le pose, de dire j'ai des exigences vis-à-vis de toi, et ça quelque part oblige, ça contraint, ça force les personnes à être dans une proposition à faire et quelque chose à agir, et ça je pense que c'est terriblement facilitateur d'être à nouveau en connexion avec d'autres, d'être en réseau, de voir une action concrète qui produit des effets. Et donc ça, c'est forcément très, très intéressant dans la remise en confiance des personnes.
Alex, je pense qu'il y a eu des points de rebondissement par rapport à ce que vient d'évoquer Geoffroy dans votre table ronde. Donc je rappelle qu'il était sur les solidarités internationales pour faire société. Donc justement, comment faire société ?
Oui, ça a été effectivement à travers les interventions là, des trois personnes, ça a permis de rebondir, mais plus sur le niveau du coup international. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui fait société dans les actions qui sont mises en place. Alors il y a eu beaucoup d'apports sur une des intervenantes qui faisait lien un peu entre les trois à travers des recherches actions.
Ah, Joël Bordet.
Oui, voilà.
Psychosociologue.
Qui travaillait du coup avec qui fait réseau au niveau européen et plus que européen, même au niveau puisqu'il y a aussi les pays d'Afrique et des pays
d'Amérique latine
au niveau de son réseau, mais aussi avec la personne qui venait d'Italie là, avec Christina. Alors plusieurs choses. La question des publics est revenue beaucoup et quelque chose de transversal un peu à la table ronde à ce temps-là, à travers qu'est-ce que les jeunes aujourd'hui, puisque ça a été beaucoup pris mm-hmm. comme exemple, qu'est-ce que les jeunes aujourd'hui ont comme aspiration et qu'est-ce qu'on leur permet de développer comme aspiration et de faire, et comment est-ce qu'on leur permet eux de faire société et de traduire un peu leurs actes et leur marge de manœuvre. Mm-hmm. Est-ce que là aussi on les assigne pas quelque part à un rôle du coup, d'aller plus loin que ça, hein, et à travers des choses très très concrètes qui ont été dites, à travers des échanges. Joël Bordet parlait d'échanges dans les cages d'escalier, parce qu'on, bien sûr, on était sur des jeunes plutôt dans les quartiers d'habitat social. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Comment est-ce que leur discours et leurs actes y permettent aussi de se raccrocher à la société ? Dans tout ce que ça peut avoir de concret, mais aussi quelque part de spirituel. Donc, on allait jusqu'à l'exemple des jeunes en voie de radicalisation, puisque c'est aussi un de ces thèmes de recherche. Et c'était dire, quelque part, ces jeunes-là, ils aspirent aussi à une certaine... Robert Bergognon parlait d'émotion, mais on pouvait aller aussi sur la question de la spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que la société, du coup, leur permet de... leur permet de développer dans ce cadre-là. Mm-hmm. L'autre partie, c'était sur tout le débat autour de la posture, puisque c'était aussi un débat avec la salle et avec des gens qui étaient enseignants, qui disaient qu'est-ce que je peux amener, moi, en tant qu'enseignant, c'était un exemple, de ma posture d'enseignant-éducateur, qu'est-ce que je peux amener aujourd'hui. Et c'était vraiment une interrogation forte, hein, parce que c'était une interrogation et une sorte de un peu démunie, hein, sur qu'est-ce que je peux amener de plus aujourd'hui concrètement à des étudiants qui viennent là pour avoir le diplôme, mais qui ont du mal à trouver du sens un peu à ce qu'ils font. Donc il y a eu beaucoup d'échanges autour de ça et sur le thème de qu'est-ce que c'est cette posture-là d'enseignant, d'éducateur peut permettre pour faire société aussi. Mmh.
Donc là, on est vraiment sur la place dans cette construction du social de toutes les parties prenantes en fait et comment les unes se construisent au regard des autres.
Mmh. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est... on n'a pas beaucoup parlé de l'institution, même s'il y a eu du débat et puis de l'avancée autour du couple instituant-institué. Mm-hmm. Dans cette, mais de l'institution en tant que telle, on n'a pas parlé forcément des institutions européennes, même si on était plutôt dans comment est-ce que chacun se place de façon dans le monde. Comment est-ce qu'on est citoyen du monde et comment est-ce qu'on on travaille sa place en toute connaissance de cause aussi. Donc avec la question de la géopolitique, de dire trouver sa place, c'est aussi faire de la géopolitique. Et là, il y avait des concrètement, il y avait là des avancées ou bien des propositions qui peuvent exister sans doute par ailleurs, mais en disant on a besoin de faire de la géopolitique dans nos enseignements, dans nos centres de formation, dans nos écoles, pour que chacun puisse être à sa place en toute connaissance de cause aussi et avoir un regard sur le monde.
Moi, j'ai le sentiment que la question de la place, elle est transversale depuis le début de ces rencontres européennes du social. Quelle place les gens peuvent prendre dans ce qui leur est proposé? Et souvent, c'est une place qui est limitée, qui ne prend en compte qu'une partie des personnes qui est celle soit de leurs difficultés, soit éventuellement de leurs compétences, mais qui ne permet pas de réinstituer les personnes dans leur globalité. Et je pense que pour penser ces questions-là, si on revient dans le champ de l'institution, une des choses qui était dite dans l'atelier chez nous, notamment sur l'expérience de vidéos en santé mentale, où ce sont des vidéos qui sont montées par des équipes dans le champ de la santé mentale avec dedans des patients, des soignants, sans que les rôles soient forcément prédéterminés dans les constructions. C'est dire on va faire bouger les rôles, quoi. Donc on va permettre que les gens vivent différentes expériences et la question du statut finalement disparaît au profit du projet. Et ça, on pourrait, je pense, très clairement s'interroger dans tous les espaces qui sont proposés aux personnes. Quand est-ce que les gens peuvent se débarrasser de l'étiquette qui leur colle à la peau en rentrant pour être sur un autre registre qui est plus celui de la construction collective, qui est plus celui du désir, des envies. Et ça, c'est relativement peu présent dans les institutions. Et je pense que le cadre global des législations ou d'un état social actif qui vient pour corriger des situations compliquées, pour sortir des gens de situations précaires, il omet complètement cette dimension-là, qui est celle du désir, qui est celle de l'organisation collective. Et ça, je pense que ça disqualifie à plein de moments les possibilités des personnes que de pouvoir agir. Elles sont cantonnées à ce qu'on attend d'elles, à ce qu'on suppose qu'elles vont pouvoir faire, sans jamais ou de manière tellement exceptionnelle interroger ce qu'elles auraient envie de faire, ce qu'elles pourraient faire, et comment est-ce que nos institutions sont en capacité d'absorber ces réalités-là et de ne pas être strictement sur l'objet qui serait le nôtre, qui serait de soigner, qui serait de remettre à l'emploi, qui serait de réinsérer socialement. Et ça, c'est... Dans les cultures d'équipe institutionnelles, quels sont les espaces qui permettent de penser ça? Et là, la pédagogie institutionnelle ou la psychothérapie institutionnelle nous instruit pas mal là-dessus. Mais en quoi ça fait encore objet d'échange au sein d'équipes dans le champ social? C'est quand même relativement rare, manifestement.
Mais c'est une question essentielle parce qu'elle rejoint aussi la table ronde hier sur la question du travail social en enjeu politique. Elle rejoint la question de comment des dispositifs qui sont mis en place dans le travail social, en fait, peuvent aussi être des freins à des mobilisations plus globales et à des participations collectives.
Comment est-ce qu'on permet de l'instituer, en fait? Comment est-ce que l'instituant, à travers du collectif, mais s'intègre, y compris dans des dispositifs en direction des publics, mais par rapport à nos centres de formation aussi. Parce que ce matin, il y avait aussi un étudiant qui parlait de sa difficulté à être dans un groupe en formation. Parce qu'il est, par rapport à une place peut-être un peu décalée par rapport aux autres. Mais c'est du coup, comment est-ce qu'on fait travailler ça dans nos centres de formation? Parce qu'après, ça va forcément, ces personnes-là qui sont formées vont répercuter ça aussi au niveau de leur propre structure quand ils seront en poste. Et il y avait aussi une responsable de centre de formation qui disait, il y a des étudiants qui viennent aujourd'hui ici, qui signent et qui s'en vont, sans vouloir porter une responsabilité ni mettre une responsabilité quelque part. Elle disait, ça nous interroge. sur des personnes un peu consommateurs peut-être ou qui viennent là, mais qui voilà, ça a interrogé un peu ces effets-là.
La question, c'est est-ce qu'on en cause de ça? En fait, on n'en cause pas, on constate.
Ouais.
On constate et ça met les gens en tension avec d'un côté, parce que moi j'ai discuté avec d'autres étudiants aussi, les bons étudiants qui sont présents, actifs, que ça intéresse, et puis les autres qui sont perçus comme étant les feignasses de l'équipe sont pas mobilisés. Mais en même temps, on sait pas ce qui produit ça. Il n'y a pas d'espace pour en discuter, c'est un fait. C'est comme ça. Et donc on laisse les gens dans ces places-là. Les gentils, caricaturalement, les gentils et les méchants dans cette histoire. Mais est-ce que les gentils et les méchants se causent d'une manière quelconque? Est-ce qu'il y a un cadre institué qui leur permet de causer de ça? Ben, manifestement, il n'y en a pas. Et donc ça va rester en l'état. Et donc les gens vont rester assignés à ces places-là. Il y aura les bons et les méchants. Et les bons seront contents d'être bons, et les méchants, ils essaieront de ne pas penser qu'ils sont méchants ou perçus comme méchants. Ou peut-être même se penseront-ils comme étant les contestataires du système, puisqu'ils ne sont pas rentrés dans la norme qui était celle qui était proposée. Mais j'ai l'impression que dans tous les services, dans toutes les institutions d'accueil, la place qui est laissée à comment est-ce que les gens vivent les dispositifs, comment est-ce qu'ils ont l'occasion d'en causer, et comment est-ce qu'ils peuvent éventuellement négocier des participations dans ces dispositifs, elle est relativement faible.
Parce que c'est la question de la réflexivité que tu es en train de...
Oui, les dispositifs sont pensés en dehors des personnes. On n'arrête pas de dire depuis hier, on n'arrête pas d'interpeller la place de l'usager. Alors déjà, le terme usager, la place des personnes
dans les dispositifs. Développe sur cette question du terme usager, s'il te plaît.
Usager, c'est un utilisateur, donc il est en position passive par nature, l'usager. Il est bénéficiaire de quelque chose qui est pensé en dehors de lui. Ici, ce n'est pas la question de l'usager, c'est la question de des humains qui fréquentent les lieux et de leur redonner une part d'humanité dans ces lieux qui sont fréquentés. Et donc, sur la question des termes, il y a eu beaucoup de discussions. Quand il disait sur les vidéos en santé mentale, quand il disait comment est-ce qu'on nomme les gens quand ils viennent présenter leur production, est-ce qu'on les nomme des patients, des malades, des réalisateurs de films, parce que en même temps, à un moment donné, ils ont réalisé un film, et donc ils ne savent jamais comment les nommer.
Ils nomment comment ?
En fait, ils alternent entre les appellations parce qu'ils ne savent pas bien comment les nommer. Mais parce que chaque fois que c'est quelqu'un d'autre qui te nomme, il t'assigne à une position. Si on te nomme réalisateur, tu deviens réalisateur. Si on te nomme malade, tu deviens malade. Enfin, et donc, en fait, on a du mal à nommer. Donc, on est dans des dispositifs où on occupe des fonctions. Mais comment est-ce que chacun, on peut, au sein du dispositif, dire qui on est? On peut être simplement, à des moments, le passif du dispositif. On peut être l'actif du dispositif. On peut être l'observateur du dispositif. En fait, on s'en fout. Mais qui est-ce qui en parle? Est-ce que c'est d'autres qui vous nomment, ou est-ce que c'est soi-même qui arrive à se nommer, à se penser dans le dispositif? Et ça, manifestement, l'espace qui est laissé pour qu'on puisse se penser soi-même dans le dispositif, elle est relativement faible.
Alors justement, sur cette question de nommer les choses, de les définir, de les remettre justement dans à leur place, est-ce que ça, c'est un élément que vous avez abordé sur la table ronde sur les solidarités internationales?
Alors, je sais pas si c'est complètement lié à ça, mais moi, ça me renvoie pour moi à ce qui a été nommé autour d'un couple un peu de tension entre local et global. C'est de se dire qu'on agit localement. Bon, c'est un peu une phrase bateau, mais on agit localement, on pense globalement, mais que c'est revenu dans le temps d'échange, c'est revenu souvent. C'est un constat qui renvoie un peu à ce que je disais tout à l'heure sur la géopolitique. C'est de donner à partir de cette phrase toute faite un peu. C'est qu'est-ce qu'on donne comme outil pour agir là-dessus. C'est le agir localement. On sait faire. On voit un peu ce que ça veut dire. mais penser globalement aussi. Mais c'est peut-être dans l'interaction entre les deux. Comment est-ce qu'on fait lien pour que justement donner du sens à l'action d'un côté, et puis pour les autres, c'est faire du lien aussi entre peut-être les différents publics qui agissent, entre ceux qui, il n'y aurait pas ceux qui pensent et ceux qui agissent, mais arriver à trouver ce lien.
Je pense tout à fait qu'on est en train de poser la question en fait du temps, des temporalités, et la question des espaces en fait. Et en fait, est-ce que ce ne serait pas dans cette dans ces deux notions de temps et d'espace que le travail social se joue?
Ça a été une grosse discussion, pas dans la table ronde de ce matin, mais dans celle d'hier, où il y avait un peu un désenchantement par rapport au temps, finalement. L'exemple, c'était un dispositif qui travaillait sur des questions d'endettement liées à du crédit facile. La personne qui exposait sa pratique, elle disait, voilà, en 10 ans, à coup de sensibilisation, on a créé la journée sans crédit, on a travaillé progressivement à...
Juste, tu peux redire le nom de l'atelier auquel tu as participé et qui animait cet atelier?
Donc c'était Jean-Michel Charlier des Équipes Populaires, qui est une association d'éducation populaire en Belgique, et qui venait présenter les expériences ou comment lui mobilisait des publics sur des questions politiques en réalité. Mmh. Et donc l'exemple qu'il donnait sur cette question du crédit et du crédit facile et de l'endettement, c'est de se dire aujourd'hui en Belgique, en tout cas dans les messages publicitaires qui tournent autour du crédit, à la fin du message publicitaire, il y a une petite phrase qui dit emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Donc ça a l'air de rien quand on le dit, c'est le même message que manger des fruits et légumes 5 fois par jour, ou faites du sport, enfin des petites phrases comme ça, un peu comme des mantras qu'on répète pour se donner bonne conscience dans certaines mesures. Mais ils le posaient comme étant une avancée politique dans leur chef, qui était, on a contribué à ce qu'il y ait des contraintes sur le crédit à la consommation. Alors on peut se dire... Donc ça a pris 10 ans, l'organisation d'une journée sans crédit, du lobbying politique. Et donc on peut se dire, au final, et c'était le discours de certains dans la salle, qui était de dire, ah mais quel petit gain au regard des enjeux. On peut se dire, quand on a fait ça, on n'a pas touché à notre société de consommation en se disant, le Graal aujourd'hui, c'est de consommer beaucoup. Et plus on consomme, plus on est heureux. C'est pas vrai. Et le crédit à la consommation permet d'atteindre ce Graal, en tout cas de manière immédiate. Après, on est dans la merde s'il faut rembourser, mais bon. Et de se dire, finalement, on a peu ébranlé la société de consommation en faisant ça. On a juste, aux limites, on a pu ajouter l'une ou l'autre petite condition de prévention, de mise en garde. C'était assez trash pour la personne de recevoir ça en se disant « Ben oui, nous, c'est un travail de 10 ans parce qu'on a travaillé avec les personnes qui étaient dans le surendettement, en règlement collectif de dette, des choses comme ça. Et ça a pris 10 ans et on a l'impression qu'on a quand même touché d'une manière ou d'une autre au cadre légal et donc on a une forme de victoire à annoncer. Mmh. Et en même temps, ça n'a pas fondamentalement modifié le rapport de force. Les forces productives et le capital restent à la manœuvre. La société de consommation reste toute puissante. Il y a juste qu'elle s'est parée des vertus d'une forme de prévention à l'égard des publics. Alors, c'est voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Oui, effectivement, on peut se dire le rapport de force n'a pas changé. Ceci étant, il y a un ensemble non négligeable de personnes qui ont travaillé dessus, qui ont pu dire des choses et qui aujourd'hui vont réfléchir autrement à la question. Et il y a quelque chose probablement qui est manquant dans comment ces petits combats d'associations de terrain du quotidien alimentent des rapports de force plus globaux. Mmh. Et donc c'est ce qui me faisait penser à ça, c'était la question du local et du global, de se dire ces petits rapports de force là, ils doivent pouvoir alimenter quelque chose qui nous dépasse et qui institue un autre rapport de force. Et ça, je pense qu'aujourd'hui on n'est pas encore très très fort là-dessus, dans les rapports de force qui sont institués.
Très fort là-dessus.
Ben, le rapport de force, il est inégalitaire aujourd'hui. Et on n'arrive pas, en tant qu'association de terrain, de manière suffisamment forte et prégnante, à faire le relais entre ces expériences-là, les valoriser, les montrer, pour que demain, sur le plan législatif, on ait un rapport de force plus fort sur ces questions-là et faire changer plus substantiellement les choses. On fonctionne par petites touches, alors on peut dire ces petites victoires, et les petits ruisseaux, on fait les grandes rivières, tralala, tout ça. Ok. Néanmoins, on a du mal à vendre notre boulot comme étant un boulot qui doit provoquer de la transformation sociale. On en transforme un petit peu, mais pas suffisamment. Et ça, je pense qu'à des moments, c'est démobilisant aussi pour des équipes ou pour des projets de se dire on reste. Enfin, si on veut plus être dominé, on reste quand même dominé pour une très très grande partie. On enlève des petits bouts de domination par petites touches. Est-ce qu'on se satisfait de ça? Est-ce qu'on attend le grand soir, la révolution? On l'attend.
Au niveau international, un peu, comment ça s'est...
Alors j'avais deux exemples sur cette question du temps, là. Une de ce matin et puis d'hier sur un atelier. Ce matin, au niveau du temps, c'était de façon un peu classique, mais qui est revenue. C'était de dire qu'on a besoin... On le fait pas mal au CMEA, ça, de nos mobilités, elles permettent d'aller voir d'autres références.
Qu'est-ce que tu veux dire par mobilité ?
Nos mobilités, alors je veux dire nos voyages, les mobilités internationales, elles permettent la rencontre interculturelle et que un des intervenants disait ce matin que les différences culturelles, même par rapport à la question du temps, sont parfois flagrantes. Et qu'il y avait besoin de faire des rapprochements pour lui, pour pouvoir trouver d'autres références, que ça pouvait nous permettre de nous enrichir sur notre façon de faire. On n'avait pas une façon de fonctionner qui était unique et universelle, et qu'on avait sans doute besoin d'aller voir ailleurs comment ça se faisait. Il prenait, je crois, l'exemple du Vietnam. Je ne sais pas si c'était à l'intérieur de l'échange, c'était en aparté, mais la culture asiatique, elle est complètement différente par rapport au temps et on aurait besoin sans doute de se ressourcer à ce niveau-là. L'autre exemple, il était par rapport à l'atelier hier sur les associations qui parlent, non, les habitants qui parlent aux habitants, et où l'association prend le temps. C'est une association qui a pris le temps de faire les choses et qui prend le temps de faire les choses même dans sa constitution, puisque c'est une association qui n'a pas de tête, qui n'a pas de tête, qui n'a pas de CA, qui n'a pas de président, qui n'a pas de dirigeant. Et ils ont pris le temps, y compris, de déposer les statuts, parce qu'au départ, ça leur a été interdit. La préfecture leur a dit non, c'est pas possible ça. Mais si, dans la loi, ça l'est. Donc ils ont pris le temps que ça fonctionne et que ça soit validé. Et puis, une fois dans le fonctionnement au quotidien, il fonctionne par Assemblée Générale. C'est l'Assemblée Générale qui est souveraine et qui prend toutes les décisions. Donc, avec une question d'horizontalité, tous les mois, il y a l'Assemblée Générale se réunit et décide de ce qu'ils vont faire le mois d'après sur le principe du consensus.
Le consensus demande du temps.
Le
et de
consensus
la
demande du temps. Alors parce que ça ne veut pas dire, comme disait monsieur, je crois, Gégère en introduction mercredi, que consensus ne veut pas dire dissensus aussi, hein, mais qu'il peut y avoir du débat, de l'échange, mais qu'il y ait quand même la question du consensus, elle est quand même dans les statuts pour que ça puisse avancer, que les choses puissent se faire. Donc voilà, c'est deux exemples. Et je crois que ça renvoie dans l'intérêt que ça pouvait avoir. Alors, ce que disait Geoffroy, c'est que c'est des expériences locales, très locales, mais qui peuvent nous renvoyer à nous ou à toute association des choses sur leur façon de fonctionner, quoi. Et sur leur capacité peut-être aussi à faire bouger les lignes aussi de la société.
Oui, à travers ton exemple aussi, elle repose la question sur l'institution qu'on a évoquée au début.
L'institution. Mais le temps de l'institution n'est pas celui des personnes, c'est ça qui est compliqué, je pense, dans ce qui nous occupe. Le temps de l'institution, il est un temps à la fois pratique et à la fois politique. C'est pratique dans le sens où on a des missions, on a des manières de travailler qui prennent un certain temps. Et puis politique, on a des enjeux et quelque part des échéances à certains moments de revendiquer telle ou telle chose sur la place publique. Après, le temps des personnes, il vient en porte-à-faux avec ça. Et quand on est dans des processus d'émancipation, parfois, rien que la question de la mobilisation du public, du fait qu'à un moment donné, ils soient intéressés à ce qui se passe, ça prend déjà peut-être un temps très long qui ne va pas correspondre aux échéances qui pourraient être fixées par celles de l'institution. Et donc, quelque part, là aussi, le rapport de force, il est malaisé. Éthiquement, on ne veut pas contraindre les publics avec lesquels on travaille à se plier aux exigences de l'institution, aux exigences de l'État. Donc, on veut leur laisser le temps de se développer, le temps de prendre confiance, etc. Ok, mais éthiquement, ça se tient. Sauf que après, dans le rapport de force, quelque part, il s'en fout un peu de l'éthique. Au moment où il faut aller au combat, il faut aller au combat. Et c'est à tel moment que la loi se vote, ou c'est à tel moment qu'il faut dans les médias intervenir parce que ça va avoir un écho et pas à tel autre. Et donc là, je pense qu'on est un peu coincé dans les travaux qu'on peut avoir, enfin dans les institutions dans lesquelles on voyage, dans lesquelles on milite. On est un peu coincé parce qu'on se veut à la fois très respectueux du rythme des publics et en même temps, on est dans des contingences de timing du champ politique sur lesquels on a relativement peu de prise. Et il faudrait qu'on arrive à décélérer là-dessus et de se dire des réformes en profondeur sur tel ou tel type de politique, ça va prendre 15 ans et donc ça va traverser plusieurs gouvernements. Ça, c'est assez inaudible. Et c'est inaudible à la fois sur le plan des politiques sociales, mais c'est inaudible aussi sur les institutions scolaires. Et, alors que fondamentalement, ça devrait être des questions qui sont quelque part tout le temps au travail et dont on sait qu'elles vont se dérouler sur plusieurs gouvernements, plusieurs législatures. Enfin.
Justement, est-ce que notre rôle en tant qu'acteur associatif, c'est pas être dans cette relation et dans justement de un peu ce lieu tiers, un peu ça là.
Ben si, parce que nous on reste, hein. Donc les politiques passent et les associations elles restent.
Dans le meilleur des cas.
Et le lieu de tiers, c'est aussi un des aspects qui est revenu un peu en fin d'échange ce matin, c'était quelque part oser l'expérimentation. Ça fait référence aussi à l'institution, c'est-à-dire que là aussi on met de l'institué dans... et de l'institution, c'est faire, ne pas se contraindre à l'appel à d'offres ou à l'appel à marché ou à l'appel à projet, mais pouvoir aller au-delà, pouvoir faire avec aussi l'ensemble de la société avec nos publics, c'est aussi être dans des champs d'expérimentation et oser y aller, quoi.
Très bien, je vous remercie pour ces échanges autour de cette question justement des places de chacun chacune, des regards, cette question des réciprocités et je pense avant tout des relations et le fait de relier ce rôle que nous avons, nous, en tant qu'acteurs associatifs, de relier différentes parties de la société et justement c'est peut-être cette question du social qui est vraiment au centre des questions qu'on se pose pendant ces rencontres européennes du social, c'est cette question du lien qui nous traverse. Et justement, c'est pour ça qu'on fait aussi des liens entre toutes ces différentes tables rondes. Avant de conclure, est-ce que vous pourriez me partager, juste en quelques mots, un petit peu vos ressentis, vous plus personnels, sur les rencontres, un peu des idées un peu comme ça qui vous traversent de ce que vous avez pu vivre, entendre, échanger.
On est tout petit. C'est-à-dire, y a une multiplicité de processus qui sont décrits ici, d'institutions qui présentent leur mode de travail. Donc ça pousse à l'humilité, je pense, à plein de moments. Y a une tension, je pense, qui se pointe entre... le sentiment d'impuissance face à une machine technocratique, si on prend l'État, ou une forme de domination de notre société capitaliste, et avec une forme de dégoût, enfin oui, je dirais le mot dégoût, du fait que pour bon nombre de dominés, ils adoptent le langage de la domination, donc ils sont complètement convaincus du fait que c'est légitime qu'ils le soient dominés. Et donc ça, c'est quelque part quelque chose d'inexorable, d'inaudible de mon point de vue, mais ça l'est, c'est comme ça. Je pense que moi, en tout cas, je vis ces rencontres comme étant une urgence fondamentale de coaliser des forces et d'arriver à ce que les forces coalisées fassent levier politique, parce qu'elles ne le font probablement pas assez. Et donc ça, je pense que de s'assumer tous et toutes autant qu'on est, parce que parfois on pinaille sur du pédagogisme, hein, donc sur les dispositifs, vous n'aurez peut-être pas dû faire comme ci ou comme ça. Alors je pense que la méthode, elle est absolument essentielle et nécessaire qu'on en discute, hein, donc je suis un matérialiste convaincu de ce côté-là. Ceci étant, à des moments, il faut lâcher du lest pour se dire c'est le moment du rapport de force, et donc on va arrêter de discuter méthode, on va discuter rapport de force, et donc il faut qu'on allie les deux. Et ça, en sortant d'ici, demain, quand je sortirai d'ici, en tout cas jusqu'à présent, c'est ce qui m'apparaît comme étant une mobilisation essentielle.
Merci Alex.
Oui, moi, pour aller un peu dans le même sens, mais je partais un peu du constat, un peu du verre à moitié plein, c'est de dire que ce qui m'apparaît là, c'est personnellement, hein, c'est aussi les rencontres là les espoirs qu'on peut mettre dans les rencontres et les projets qu'on peut faire avec ces MEA Italie qu'on a rencontrés là à midi, avec les copains d'Occitanie, mais qui sont de l'autre côté de l'Occitanie, avec qui on a commencé à initier des choses et puis qui se développent pendant ces rencontres. Donc ça, c'est le verre un peu à moitié plein, en disant voilà, il y a des choses et on se trompe pas, quoi. On se trompe pas dans ce qu'on fait au quotidien. Mais après, là où je rejoins Geoffroy, c'est qu'il y a urgence, quoi. Il y a urgence et à aller plus loin et à se rendre plus visible. Et bien sûr, l'urgence, elle est démocratique et elle est fixée dans les 6 mois qui viennent et aux élections qui se profilent pour le printemps. Et voilà. Et qui, j'espère, n'aura pas trop de mauvaises surprises.
Très bien. Merci à tous les deux. Juste ce petit mot de conclusion. On pourrait sans doute dire que ne nous asservissons pas et continuons à résister dans les prochaines années, décennies à venir.
Ouais. Merci.
Au revoir.
Au revoir.